Vous avez encore du souffle, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, de petits vampires qui nous rendent fous. On parle ce matin des punaises de lit qui prolifèrent à nouveau dans l'Hexagone. Un cauchemar pour des centaines de milliers de personnes. Témoignage dans un instant. Une nouvelle défaite des europhobes au Parlement européen. Les partis d'extrême droite n'auront aucun poste de responsabilité à Strasbourg. Ni vice-présidence, ni commission. Reportage à suivre. Dans ce journal également, les commerçants de Biarritz qui se préparent à accueillir le G7 dans un mois et demi. Boeing qui commence à indemniser les victimes des vols 737 Max. Et puis, un coup d'œil sur la passion des Français pour la culture pop japonaise. Le salon Japan Expo ouvre ses portes aujourd'hui.
Je vous rappelle que l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui l'écrivain et journaliste Philippe Lançon.
France Inter.
Elles peuvent faire de votre vie un enfer, Sébastien. Les punaises de lit sont de retour en France.
Oui, elles provoquent des démangeaisons sévères, des insomnies, des risques d'infection. Les punaises de lit avaient presque disparu dans les années 60, mais elles reviennent dans nos maisons à la faveur de voyages à l'étranger, de la multiplication aussi des vide-greniers. Selon le DAL, l'association droit au logement, 400 000 sites seraient infestés en France, dont 100 000 en Ile-de-France. Beaucoup d'habitats précaires concernés, mais pas seulement. Exemple avec ce reportage de Delphine Evenou.
La crise est derrière lui, mais pas oubliée.
C'était un enfer, vraiment un enfer.
Fabien, trentenaire parisien, a mis 6 mois à se débarrasser de ses punaises de lit.
On a désinfecté à plusieurs reprises, mais ça suffisait pas. Et ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est qu'on devait vraiment vider l'appartement pour que les traitements chimiques soient efficaces, parce qu'elles se mettent dans les vêtements, dans les livres. On en a trouvé dans les prises de courant, il y en avait absolument partout en fait.
Traitements chimiques multiples, intervention d'un chien spécialisé, congélation de ses meubles pour tuer les indésirables, la facture est lourde.
Je pense qu'on en a eu peut-être pour 4 à 5000 euros et rien n'est pris en charge par les assurances.
Sans oublier le bébé régulièrement envoyé chez les grands-parents à l'autre bout de la France.
Pour la petite histoire, on a aussi contaminé la maison de mes beaux-parents.
Et la prolifération est massive selon la Fédération de professionnels de lutte contre les nuisibles.
En l'espace de 2 ans, on est passé à près de 300% d'augmentation des interventions.
Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D.
On a des gens qui nous appellent et je pèse mes mots en détresse psychologique. Ils ne dorment plus. Des mamans ou des papas qui surveillent le lit de leurs enfants la lampe de poche, la nuit.
Appartements, transports, hôpitaux, entreprises sont ainsi touchés. Des victimes, précise Stéphane Bras.
C'est pas un problème d'hygiène. On est victime d'un fléau qui arrive chez n'importe qui. C'est un petit vampire. Donc on est la nourriture ambulante des punaises.
Une seule solution pour en venir à bout, le traitement par des professionnels, car les punaises de lit résistent à la plupart des insecticides.
Reportage Delphine Evenou a noté qu'une intervention professionnelle peut coûter très cher. On l'a entendu, entre 400 et 1000 euros en moyenne selon la France Insoumise, qui avec plusieurs associations, réclament que les punaises de lit soient reconnues comme problème de santé publique et que les tarifs des entreprises soient encadrés. Et puisqu'on est dans le parasite, sachez que le nombre de nouveaux cas de maladie de Lyme a connu une augmentation significative l'an dernier, due notamment à l'expansion cette fois-ci des tiques. 67 000 cas en 2018 contre 45 000 en 2017 selon le ministère de la Santé.
Et à 7h33, Sébastien, direction Strasbourg avec ce nouvel échec de l'extrême droite européenne.
Après l'impossibilité de créer un groupe parlementaire unique, les eurodéputés nationalistes ou populistes ont été écartés de tous les postes clés. Le groupe réunissant Matteo Salvini et Marine Le Pen espérait pouvoir décrocher des vice-présidences pour peser sur le contenu des lois, mais les partis pro-européens ont finalement fait barrage à leur nomination, choqués notamment par le comportement des Britanniques. À Strasbourg, Louise Baudet.
Des eurodéputés qui refusent de se lever alors que retentit l'hymne européen. L'image a frappé en ouverture de la session parlementaire, preuve que les europhobes doivent être écartés des postes clés, selon l'écologiste Karima Deli.
Leur place n'est pas des postes des responsabilités pour encore plus vite détricoter le projet européen.
Déni de démocratie, rétorque l'eurodéputé RN Thierry Mariani.
Il y a une sorte de politique totalitaire où on exclut des millions d'électeurs des différentes responsabilités.
Victimisation d'un groupe sorti renforcé des élections et décidé à s'investir dans les institutions, affirme l'élu RN Nicolas Bay.
Notre démarche est très constructive, nous servons l'intérêt général, alors qu'eux, on le voit, ils sont avant tout préoccupés par le maintien de leur pouvoir pour ensuite gouverner un peu à l'abri des regards et à l'abri des peuples.
Les europhobes en quête de respectabilité, méfiance, prévient l'élu de gauche Raphaël Glucksmann.
Toute l'idéologie qui voudrait qu'à la tête d'institutions, les nationalistes se modèrent est une idéologie fausse. En réalité, ils en font des porte-voix pour l'idéologie haineuse qu'ils portent.
Écarté des postes clés, l'extrême droite va se concentrer sur le travail des autres. elle annonce le lancement d'un observatoire des votes inavouables ou comment mettre la concurrence sous surveillance. Strasbourg, Louise Baudet, France Inter.
Et puis un rappel avec l'élection hier d'un Italien à la tête du Parlement européen, le social-démocrate David Sassoli, élu pour 2 ans et demi, ancienne star du JT du 20h sur la Rai Uno. Il est accusé d'avoir offensé sa hiérarchie à coups de tracts et de déclarations fracassantes. Le policier Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat minoritaire Vigie, a été exclu de la police nationale pour 12 mois, dont 6 avec sursis. Une honteuse mise au banc pour Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce également la servilité, je cite, de Christophe Castaner devant les extrémistes de la place Beauvau. Christophe Castaner qui sera aujourd'hui à Biarritz afin de préparer le G7 qui aura lieu du 24 au 26 août prochain. Un sommet en plein centre-ville, aéroports et gares seront temporairement fermés. Une partie de la ville de Biarritz sera bloquée. Alors en face, les commerçants s'inquiètent et tentent de s'organiser, Mathilde Dehémy.
Comme tous les habitants de l'hypercentre, les 700 commerçants et leurs salariés devront présenter un badge pour pouvoir travailler au plus près des 7 chefs d'État. La grande plage sera interdite et les touristes nettement moins nombreux. Il va donc falloir s'adapter, reconnaît Sergi Steck, vice-président de l'Office de commerce de Biarritz.
Cette clientèle particulière, elle est constituée des délégations étrangères, des journalistes et des policiers qui se comptent par milliers. Nous, il s'agit de capter cette clientèle-là. Néanmoins, les commerces en perte de chiffre d'affaires auront la possibilité de faire des réclamations.
Tout le monde ne partage pas cet optimisme, mais ne souhaite pas s'exprimer au micro. Des commerçants inquiets de ne peut-être pas pouvoir sortir leur terrasse, ne sachant pas comment gérer leurs fournisseurs dans la zone sans voiture. Certains ont même envisagé de fermer temporairement, congédiant leurs saisonniers. Une mauvaise idée, selon Sergi Steck.
On ne peut pas se permettre de perdre 4 jours de chiffre d'affaires parce que nous sommes en haute saison et qu'à la fin du mois d'août, nous avons les salaires à faire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord pour que les commerces soient fermés à ce moment-là. C'est donner une très mauvaise image. Il faut essayer de faire le dos rond et essayer de se rattraper à notre période et puis ensuite faire des réclamations et obtenir gain de cause.
Un G7 qui se tiendra sous très haute surveillance. Au moins, glisse un commerçant, on n'aura pas de problème de sécurité dans le centre.
En bref, à l'étranger, une nouvelle manche remportée par les manifestants algériens. Hier, le président par intérim s'est engagé à ouvrir un dialogue dans lequel ni les autorités politiques actuelles de l'État algérien ni l'armée ne seront impliquées, seulement des personnalités indépendantes. Les élections présidentielles devaient avoir lieu aujourd'hui, mais ont été annulées, faute de candidats. Facebook à nouveau opérationnel à 100% ce matin après une grosse panne hier après-midi qui a empêché pendant des heures le partage de photos et de vidéos sur Messenger, WhatsApp et Instagram, le tout à cause d'une opération de maintenance.
7h38, Boeing s'apprête à indemniser, Sébastien, les victimes des deux accidents de son 737 MAX.
Deux accidents qui ont fait 346 morts. Les 737 MAX restent cloués au sol, immobilisés par l'administration américaine, en attendant de retrouver ses autorisations et en attendant surtout les premiers procès. L'avionneur américain a annoncé hier le déblocage de plusieurs dizaines de millions de dollars, un premier dédommagement des familles endeuillées. À Washington, Grégory Phillips.
Au total, Boeing débloque 100 millions de dollars pour financer l'éducation, les dépenses quotidiennes des proches des victimes et le préjudice subi. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi un peu moins que le prix catalogue d'un seul Boeing 737 MAX. Un porte-parole de l'entreprise précise que la création de ce fonds est indépendante des plaintes déposées par les familles des victimes de ces deux accidents. Au total, une dizaine de plaintes déjà enregistrées. En clair, les familles qui accepteront cet argent ne seront pas contraintes d'abandonner leur poursuite engagée contre le constructeur aéronautique. Avec la création de ce fonds, Boeing veut en tout cas faire oublier sa gestion catastrophique de la crise et les défaillances du système anti-décrochage de ses appareils. Les 737 MAX restent pour l'instant interdits de vol, au moins jusqu'à l'automne. Et l'enjeu économique est colossal, car dans le même temps, Boeing continue de produire dans ses usines chaque mois une quarantaine de ses avions. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En France, la circulation de tous les TGV Paris-Milan sera suspendue jusqu'au 31 juillet prochain. C'est un communiqué de la SNCF qui le dit. La coulée de boue de mardi soir après les orages a fortement endommagé tout un tronçon de 60 mètres entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. J-1 avant les résultats du bac, le bras de fer entre les syndicats et le ministre continue, alors que certains enseignants menacent de ne pas rendre ou noter 100 000 copies pour
contester la réforme du lycée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a proposé hier que ce soit la moyenne du contrôle continu qui fasse office de note provisoire si la copie n'a pas été rendue à temps, puis a noté la légère baisse de revenus des médecins généralistes, des revenus qui ont atteint 87 775 euros exactement en moyenne l'an dernier, un léger recul de 0,9% par rapport à 2017.
Et c'est le rendez-vous des fans de manga et plus généralement de la culture japonaise.
La Japan Expo ouvre ses portes aujourd'hui au parc des expos de Villepinte en Seine-Saint-Denis, salon numéro 1 de sa catégorie en Europe, l'un des plus visités de France avec près de 240 000 visiteurs. Il y a 20 ans, il n'était que 3 000. Un vrai succès donc qui se transmet de génération en génération. Exemple avec cette famille, Fabrice a 37 ans et son fils 7 ans. Ils iront tous les deux au salon. Léa Dubost les a rencontrés.
Au milieu de son salon rempli de statues, de posters, de DVD, Fabrice le dit lui-même en souriant, on se croirait dans une chambre d'ado. Après une première Japan Expo en 2003, il n'a jamais quitté l'univers manga.
J'ai commencé, c'était avec le Club Dorothée, des mangas cultes comme Dragon Ball au départ, ensuite devenu Dragon Ball Z, Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac.
Sa passion prenait beaucoup de place dans sa vie jusqu'à l'arrivée de son fils il y a 7 ans. Il l'emmène aujourd'hui pour la première fois à la Japan Expo.
Dès que je peux lui partager quelque chose qui m'a fait frissonner moi en tant petit, avec lui, je le vis de façon encore plus démultipliée. Et on découvre ensemble.
Mon papa il m'a fait découvrir des mangas et j'ai bien aimé.
Assis à côté de son père dans le canapé, Fabio s'est construit lui aussi tout un univers manga.
Il a peut-être des mangas préférés qui ne sont pas les miens. Des fois il m'en fait même lui découvrir, que je ne connaissais pas. D'ailleurs dans sa chambre, il a une vitrine, parce qu'il voulait une vitrine comme papa, avec plein de figurines.
Fabrice compte partager cette passion le plus longtemps possible avec son fils, même s'il est parfois difficile d'être fan de manga à 37 ans.
On se dit, il a 37 ans et il a des poupées, des jouets. On peut se dire, il a fait à quelqu'un qui n'est pas mature, c'est un gamin.
Comme de nombreux passionnés, Fabrice et Fabio espèrent avoir la chance de rencontrer les créateurs de Goldorak et Albator, invités d'exception pour les 20 ans de Japan Expo.
Voilà Léa Dubost, le reportage de Léa Dubost, Japan Expo, c'est au parc des expositions de Villepinte jusqu'à dimanche.